Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine par Harold Avraham Weil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin d'ailleurs en même temps. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Avant de commencer, monsieur le grand rabbin, je voudrais adresser à nos auditeurs nos plus plates excuses pour le cafouillage de la semaine dernière. Une petite aversion de fichier, on s'en excuse et on s'efforcera dans le futur de limiter ces problèmes techniques au maximum. Voilà, cela étant dit, monsieur le grand rabbin, on va parler de la paracha. Nous lirons demain la paracha Beau, l'allumage des bougies ce soir avant 17h et demain la fin du Shabbat après 18h11. Ces horaires sont valables pour Strasbourg et sa région. Et nous voudrions, monsieur le grand rabbin, dédier cette émission à l'élévation de l'âme de Joseph Shushana, Zichrono Livracha, ancien président du comité séfarade, fidèle parmi les fidèles de la synagogue de Rambam, et il est surtout l'époux de notre amie et collaboratrice Solange Shushana. On voulait adresser à Solange, à ses enfants, à toute la famille, nos plus sincères condoléances. Monsieur Rambam, un mot sur Joseph Shushana, vous connaissiez ?
Voilà. Qui ne connaissait pas le docteur Joe Shushana J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois cette semaine lors de prises de parole. Sa disparition est un choc, pas simplement pour sa famille, pas simplement pour son cas, je le précise, pas simplement pour la communauté de Rambam, mais pour la communauté juive de Strasbourg tout entière. Voilà, il nous laisse inconsolables. La brutalité de sa disparition a été un véritable choc, voilà, d'autant plus qu'elle s'est passée Shabbat matin, en plein milieu de l'office de Shabbat matin. Et Joe Shushana, en étant discret, a tellement contribué au développement de cette communauté. Il a été le bâtisseur de la synagogue de Léocone, puis de la synagogue de Rambam. Il a exercé bien sûr les fonctions de président, mais bien au-delà de ses fonctions officielles. C'est quelqu'un qui s'est toujours impliqué dans cette vie communautaire, je le dis d'une manière totalement désintéressée, l'Hechem Shamaïm, avec beaucoup d'authenticité, avec une grande droiture, je crois que c'est ce qui a été souligné. C'est quelqu'un qui n'a jamais cherché la lumière, il n'a jamais cherché la gloire, il a simplement cherché à être bon et efficace, utile pour sa communauté, pour sa famille aussi. C'est quelqu'un qui avait un grand amour pour ses enfants et pour ses petits-enfants, et d'une manière générale pour tous les enfants de la communauté. Et peut-être qu'on restera avec cette image, parce que Joe Shushana, c'est celui qui distribuait les friandises et les bonbons, et du haut de ses 79 ans, quelqu'un l'a rappelé hier, il prenait toujours le même plaisir à pouvoir justement gâter tous ces jeunes. Pour lui, la vie de la synagogue, elle passait par ses cris d'enfants et par ses sourires. Et il avait parfaitement compris qu'une communauté, voilà, sans enfants, une communauté sans capacité à se renouveler, à se régénérer, c'est une communauté qui est en quelque sorte condamnée à disparaître. Donc il se réjouissait finalement.
Juste rajouter que dans son métier de médecin, quand il a été médecin, notamment là où on habitait, M. Grava, Bishaim, il avait toujours aussi cette proportion à rassurer quand on est malade, à rassurer les mamans en disant « vous inquiétez pas, il va guérir, il va prendre ses médicaments, tout va bien se passer ». C'est toujours très...
Je pense que c'est quelqu'un qui a ça aussi été souligné par ceux qui l'ont connu, on va dire, sous l'aspect professionnel, qu'il a été aussi un médecin très apprécié de ses patients, parce que c'est une profession qu'il a exercée pendant des décennies, avec aussi beaucoup de Messirut Nefesh et de passion.
On va, y a quand même des bonnes nouvelles dans la communauté.
Heureusement, parce que malheureusement, on a eu quand même beaucoup de mauvaises nouvelles. Et la page d'essai du carnet de famille a été beaucoup noircie ces dernières semaines.
Malheureusement. Mais on va quand même aussi souhaiter les bonnes nouvelles. On va commencer par une naissance, celle de Tiferet, la fille de Nathan Grumbach et de son épouse. Et on voulait souhaiter évidemment à cette jeune fille, à Nathan, qu'on connaît bien, que je connais bien, et évidemment aux grands-parents, et particulièrement à Ariel et à son époux, évidemment, Grumbach, un grand Mazal Tov, Michel,
José.
José, c'est le frère.
Michel, c'est le tonton.
Voilà, c'est le tonton. José et Ariel, un grand Mazal Tov. C'est l'émotion, voyez-vous. Il y avait une Bar Mitzvah hier matin qui
tout
va se faire
qui se prolonge ce Shabbat, exactement. Et on souhaite un immense Mazal Tov à Arié Cahen pour sa bar mitzvah, à ses parents, bien sûr, Kelly et Lionel Cahen, mais également aux grands-parents qui sont de grands fidèles de notre communauté, notamment de la Grande Synagogue de la Paix. Je pense à Alain et à Michel Cahen, mais également aux grands-parents maternels, puisqu'ils se sont récemment installés à Strasbourg. Ils ont quitté le Maroc pour venir s'installer à Strasbourg. Vous voyez qu'on finit toujours par s'installer à Strasbourg. Ils ont suivi le chemin leurs enfants. Et donc, on souhaite aussi, également un grand Mazal Tov à Evelyne et Messod Ben Assouli, les parents de Kelly, qu'on apprécie beaucoup, qui sont très sympathiques, toujours de bonne humeur, toujours très souriants. Et Arié leur procure beaucoup, beaucoup de joie et de fierté.
Voilà, Arié qui dira la paracha demain à la Grande Synagogue. Et on voulait également souhaiter un grand Mazal Tov à Noémie.
Dites-nous en plus, dites-nous un peu plus.
Noémie, c'est ma nièce, voilà. Elle est la fille de Annie et de Maxime Choukroun. Maxime Choukroun qui est mon frère, voilà, vous savez tout. Petite fille de Margaret Haas et de Rebecca Choukroun, qui est donc ma maman.
À qui on souhaite une réfoua Shlema, voilà, et une bonne santé. Et voilà.
Et un joyeux anniversaire.
Elle vient de fêter ses 90 ans, donc on lui re-souhaite bon anniversaire.
Voilà. Donc Noémie se marie avec Vincent, le fils d'Anne-Laure et de Charles Ackerman, et le petit-fils de Claire Rosenberg de Paris, évidemment. On a une pensée particulière
pour les grands-parents, paternels.
Voilà.
Liliane et Henri Ackerman. D'autant plus que nous célébrerons en tout cas. La semaine prochaine, le Yortzeit de Liliane Ackerman. On ne peut pas oublier qu'elle nous a quitté un Shabbat après-midi, jour de Tu Bishvat.
Voilà. Et on voulait aussi souhaiter donc un grand Mazal Tov à Noémie et à Vincent. Voilà, Mazal Tov à toute la famille et à moi en particulier. Voilà, on va reprendre les choses normales et on va parler de la paracha de la semaine. La paracha de Bo, monsieur le grand rabbin, on commence comme à l'accoutumée par le résumé.
Alors, le résumé de cette paracha, eh bien, la paracha de Bo s'ouvre avec les trois dernières plaies, les trois dernières makot, parce que, souvenez-vous, Jean, dans la paracha de Vaera, nous n'avons eu que les sept premières plaies sur les dix plaies qu'Hachem a envoyées en Égypte. Donc, cette paracha s'ouvre avec la première plaie, enfin, la première du dernier groupe de trois plaies, en l'occurrence, donc, la huitième, la plaie des sauterelles, puis celle de l'obscurité, la neuvième, et enfin la dernière, qui est la mort des premiers-nés. Et puis, comme tout le monde le sait, donc, va enfin s'opérer un changement, peut-être un petit peu malgré lui, mais en tout cas, changement dans l'attitude de Pharaon, qui cette fois-ci, véritablement brisé de l'intérieur par cette dernière plaie, par la mort des premiers-nés et la mort de son propre fils, eh bien, Pharaon décide de laisser partir les enfants d'Israël. Donc nous allons avoir un petit passage qui va précéder un petit peu cette sortie, puisque le peuple d'Israël doit sortir avec une certaine préparation déjà spirituelle. Donc il va recevoir sa première mitzvah, la mitzvah de la sanctification de la nouvelle lune, du nouveau mois. On va nous parler un petit peu du calendrier juif dans cette paracha. Et puis on nous parlera du Korban Pessah, le sacrifice pascal, qui est la première mitzvah qui va être réalisée au moment de la sortie d'Égypte. Et on va voir que cette mitzvah, ce commandement, avait un lien direct avec tout ce qui se faisait à cette époque-là en Égypte. Et donc il y avait une volonté, en tout cas de la part de Dieu, de permettre au peuple d'Israël de se libérer, non pas simplement physiquement, mais également spirituellement, de toute l'ambiance égyptienne. Et nous terminerons cette paracha. Donc bien sûr, on va nous parler brièvement, concrètement de la sortie d'Égypte, la manière dont s'est organisée cette libération, et nous terminerons de manière très très surprenante cette paracha avec, a priori, quelque chose qui n'a pas vraiment, si ce n'est bien sûr qu'on nous rappelle l'importance de se souvenir de cet événement de la sortie d'Égypte. On va nous parler des téphilines, Jean, on va nous parler du rachat, du premier-né, enfin bon, voilà, des sujets a priori qui n'ont pas de lien direct avec la paracha, mais qui sont en tout cas deux passages très très importants, puisque ces deux passages, eh bien, ils sont inscrits dans les téphilines que nous portons tous les jours.
Alors, on va commencer par justement la première question que j'avais à vous poser. Vous l'avez dit, sept premières plaies dans la paracha de Vaera et trois dernières. Pourquoi une séparation? On ne peut pas prendre une paracha entière et on dit les dix plaies d'un coup, d'un seul.
Voilà, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de, au niveau du calendrier, il n'y a pas eu d'interruption particulière entre cette septième plaie et cette huitième plaie. Donc ça a été une volonté hein, dans le découpage des sidrottes, effectivement, qu'il y ait sept plaies dans une sidra et que les trois dernières soient séparées des premières et qu'elles occupent une place particulière dans une paracha qui leur est dédiée. Pourquoi ? C'est une question qui a intéressé la plupart de nos commentateurs, de nos exégètes. Il y a beaucoup de réponses que l'on pourra apporter à cette question. Je propose une piste de réflexion qui concerne le changement qui intervient à partir de la huitième plaie. En réalité, si on analyse très très finement ces différentes makotes, on voit qu'il y a des petits changements hein, au fur et à mesure que l'on avance dans les plaies. Et donc on pourrait faire cette analyse après la première, après la seconde, après la troisième, etc. Mais il y a un changement particulier en tout cas, vraiment une vraie différence qui est créée par la dernière plaie qui a été envoyée dans la paracha de la semaine dernière, la plaie de Barad, qui va susciter de la part du peuple égyptien déjà une réaction que nous n'avons pas connue avant. Et là, il y a vraiment une montée en puissance, on va dire, de la réaction populaire, hein, un petit peu des Égyptiens qui disent « Stop, maintenant, voilà, on en a marre, il faut que Pharaon un petit peu change son attitude. » Alors, on le sait, Pharaon va continuer à endurcir son cœur, mais en tout cas, il y a eu un véritable changement au niveau de l'opinion publique. Et ça, c'était important pour cela de séparer, pour bien montrer qu'après la septième plaie de Barad, s'opère un changement, commence à s'opérer un changement dans les mentalités qui est déjà le début de la délivrance. Hein. Un souverain ne peut jamais, aussi puissant qu'il est, ne peut jamais décider tout seul. Il est obligé de tenir compte à un moment donné de l'opinion publique et il s'expose, s'il ne le fait pas, à une rébellion par la force, à une véritable révolution. Et donc, c'est peut-être ce changement qui est mis en lumière par la séparation des trois dernières plaies du groupe des sept premières plaies.
Alors, cette plaie des sauterelles, dans les commentaires, on explique pourquoi les sauterelles, on donne une explication. Est-ce que de façon générale, chaque plaie a une explication, pas logique, mais argumentée?
Bien sûr, elle a une explication argumentée et chaque plaie a un objectif tout à fait particulier, tout à fait précis. Voilà, on sait que ces makotes sont séparées en trois groupes, hein, et notamment je pense à ce commentaire de Rabbi Yehuda que nous récitons, qu'on connaît tous par cœur, parce qu'on le récite dans la Haggadah le soir du Seder, et où après avoir, avec notre petit doigt hein, pour les Ashkenazim, ou je ne sais pas de quel doigt se servent les Sfaradim, je crois, versent directement du verre dans la coupe, voilà, sans tremper le doigt à l'intérieur. Mais là, c'est un moment où tout le monde, toutes les personnes, tous les convives qui sont en train de dormir depuis le début du récit de la Haggadah se réveillent parce qu'il y a un peu d'action. Et puis Dame Tzvardéa, c'est rigolo, on connaît tous les dix plaies par cœur, donc c'est toujours un moment où tout le monde se réveille le soir du Seder. Voilà, et puis, donc Ali, après avoir récité ces dix plaies, après les avoir énoncées le soir de la Haggadah, on souligne ce commentaire de Rabbi Yehuda qui nous dit bah, « Rabbi Yehuda, lui, avait l'habitude de donner un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Et il nous dit « Detzar ». Adash, Beachav. Donc il les classe en trois catégories, à chaque fois hein, par les acrostiches, bien sûr. Detzar, donc Dam Tzvardéa Kilim, un premier groupe. Arov, Devershrin, un deuxième groupe. Et puis les quatre dernières plaies qui forment un dernier groupe. Alors, Jean, ça ne vous aura pas échappé que les trois premières plaies ont frappé l'eau, les trois suivantes ont frappé la terre, les quatre suivantes ont un lien avec le ciel. Donc on voit que ce sont vraiment toutes les dimensions en fait, du monde, de la création d'Akadosh Baruch Hu, qui sont frappées. Il y a une particularité peut-être même pour les trois dernières également. Alors là, je vais séparer Barad, ça correspond plus à la logique de notre paracha, avec les trois dernières sidrotes qui sont à part, vous avez vu qu'il y a une notion d'assombrissement du ciel. Les sauterelles ont assombri véritablement le ciel, après, comme ça avait été le cas aussi, avec Rocher, et comme c'est le cas aussi avec Makat Bechorot, où ça se passe vraiment en pleine nuit. Et donc là aussi, il y a un message qui est délivré aux Égyptiens qui adoraient le soleil, qui voyaient quelque chose, une puissance tout à fait spectaculaire, et Akadosh Baruch Hu est en train de se manifester et de leur dire attention, voilà, je suis le maître du monde, voilà, vos dieux, eux, n'ont aucune action possible. Et donc par l'assombrissement du ciel auquel nous assistons par les sauterelles, qui vont également, bien sûr, c'était pas leur but premier, ce n'était pas d'assombrir le ciel, mais de venir manger et faire de sacrés dégâts au niveau des récoltes. Mais vous voyez, Jean, la subtilité qu'il y a dans chaque plaie. Même lorsque l'objectif des sauterelles est de manger les récoltes, la plaie commence déjà par un assombrissement du ciel qui est déjà un premier message en soi pour Pharaon.
Alors on va avancer dans cette paracha et on va arriver au chapitre 10, verset 26. Et il y a une discussion entre Moshe et qui dit à Pharaon, je partirai avec tout le peuple, le menu, le gros bétail, et pas un sabot ne restera. Est-ce que c'est une expression qu'on a dit comme ça, ou il y a une explication de ce mot, pas un sabot ne restera?
Alors effectivement, c'est une expression voilà, tout à fait particulière qu'utilise ici Moshe Rabbeinu. L'otichère par ça, c'est à ça que vous faites allusion.
Vous
l'avez souligné tout à l'heure, Jean, il y a dans chacune des makot, chacune des plaies qui est envoyée un message bien particulier qui veut être donné, qui veut être envoyé à Paro. Il faut savoir que cette même logique s'applique également dans les discussions que Dieu a rendu nécessaire, finalement, on aurait pu imaginer. C'est une réflexion aussi que j'ai essayé de partager avec la communauté la semaine dernière. On a très bien pu imaginer une logique dans laquelle les plaies s'enchaînent les unes après les autres, sans qu'il y ait forcément de rencontres et d'échanges qui soient faits entre Moshe et Pharaon. Or, nous voyons que ces échanges-là, qui sont parfois préalables donc à l'envoi de ces différentes plaies, sont des échanges qui sont tout à fait nécessaires. Ils sont indispensables parce que Pharaon doit entendre certaines choses au-delà des makotes, hein, au-delà des plaies qui viennent lui envoyer des messages, de par simplement l'observation de ces plaies. Il faut que Pharaon aussi entende certaines choses. Là, bien sûr, il y a une petite allusion. Voilà, il y a une petite allusion par rapport au monde animal ici. Et vous savez l'importance qu'avaient les animaux pour Pharaon et la volonté, en réalité, que ce soit Pharaon qui fasse une démarche justement d'envoi au niveau des animaux, parce que dans la sortie d'Égypte, dans la logique de la sortie d'Égypte et la volonté de libérer un petit peu les Bnei Israël de toute cette atmosphère égyptienne et de cette logique idolâtre égyptienne, eh bien, il faut voilà, se libérer de ce rapport un petit peu voilà, malsain qu'on entretenait en divinité avec le monde animal. Et donc, voilà, on souhaite à la fois que le peuple d'Israël puisse s'en libérer, mais également que Pharaon essaie une manière un petit peu d'ironiser et une manière un petit peu aussi de lui donner une leçon, que ce soit voilà, lui qui soit à l'origine de ce choix.
Alors, j'ai une autre explication, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'on sait que les animaux doivent ruminer le sabot fendu. Oui. Est-ce que ça peut avoir un rapport en disant je veux te montrer que nous, on est cachère, ou dans ce système-là, est-ce qu'on peut en... Non ?
C'est intéressant, c'est une réflexion intéressante. Alors, bien sûr, on est à un moment de l'histoire où, bien sûr, les règles de cacheroute n'ont pas encore été données au clan Israël,
oui, mais
il n'y a absolument aucune impossibilité à voir déjà des allusions, finalement, et des prémices de ce que seront un peu plus tard voilà, les règles de cacheroute.
Alors, vous l'avez dit, il y a des discussions des fois très importantes entre Moshe et le pharaon. Et il y en a une qui est assez intéressante, où face à l'intransigeance de Paro qui menace de faire mourir Moshe, réponse de Moshe, tu as bien parlé. C'est drôle de réponse quand on vous annonce qu'on va mourir si on vous voit la prochaine fois. Tu as bien parlé, bravo, à bientôt.
En réalité, il faut avoir une sacrée force, mais en réalité, dans cette discussion entre Moshe et Pharaon, je vous le dis, ce trame bien plus que... Voilà, c'était pas une dispute de cours de récréation. Voilà, il faut savoir que chaque mot qui va être avancé par un parti ou par l'autre est souvent un mot qui est réfléchi, un mot qui est pensé. Pharaon est loin d'être un idiot, c'est quelqu'un, on l'a dit, d'entêté, c'est quelqu'un d'extrêmement rigide. C'est un homme qui est parfois un petit peu... voilà, qui a une dimension un petit peu maléfique, il a une approche très pernicieuse parfois des choses, mais en tout cas c'est un homme intelligent. Et Pharaon, bien sûr, cherche parfois un petit peu à tourner Moïse en dérision, mais il faut savoir que dans chacune des phrases qui va être délivrée, il y a une volonté voilà, de délivrer un message.
Bah, là,
Moshe comprend que lorsqu'il lui dit vous ne me reverrez pas, Moshe comprend que c'est l'annonce, finalement, peut-être sans le vouloir déjà, de la sortie d'Égypte. Et donc ça ne peut être finalement, ça ne peut être qu'une bracha. Voilà. Enfin, Pharaon ne s'est peut-être pas rendu compte que finalement, il avait déjà annoncé ce que les Bnei Israël attendaient maintenant depuis 2 ans, 10 ans, et ce que Moshe s'employait à mettre en place depuis le début de sa mission.
Alors, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on voit que Moshe et Aaron rentrent, sortent du palais, on dirait qu'il n'y a pas de garde, il n'y a rien, c'est pas, on ne rentre pas comme dans une auberge espagnole au palais de Pharaon. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur ça dans les commentaires?
Non, il y avait d'ailleurs, puisque vous parlez de ça, Moshe, dans la réaction qui va être la sienne au tout début,
Ouais.
lorsque Dieu va lui proposer sa mission et qu'on sait que Moshe va se dérober à plusieurs
Oui.
reprises et avec toujours les mêmes arguments, mais je ne suis pas un homme de parole, j'ai des difficultés à m'exprimer, et puis je suis à Ral Svataim, enfin il va utiliser tout un panel d'expressions finalement pour exprimer ses difficultés à s'exprimer, à pouvoir parler devant Pharaon. Mais l'une des peurs qui animait Moshe Rabbeinu, d'après nos maîtres, c'était justement cette confrontation avec Pharaon. Moshe ne prenait pas du tout les choses à la légère. Il savait que rentrer dans le palais royal et s'exprimer devant un monarque de la dimension de Pharaon était quelque chose de très difficile. Donc voilà, les entrées ne se faisaient pas voilà, aussi simplement que l'on croit. Bien sûr, après, Kadosh Baruch Hu a facilité cette possibilité d'entrer. Et puis, voilà, les makot ont aussi fait leurs effets, et même si Pharaon a retourné sa veste voilà, tellement de fois qu'à la fin de la paracha, on ne sait plus trop si elle est à l'endroit ou si elle est à l'envers.
L'envers.
Mais en tout cas, il faut imaginer que avec la douleur, avec les émotions qui ont été suscitées par les différentes plaies, eh bien, il y avait certains moments où cet accès était voilà, rendu un peu plus nécessaire, un peu plus
Alors,
facile.
on lit la paracha, on parle des makot, on va arriver à la dernière, la plus importante, et patatras, il y a une coupure dans la
Pas
paracha.
d'électricité.
Non, une coupure dans le thème. Vous m'avez. Voilà. Donc, il y a une coupure.
Achodesh Azelachem, effectivement, une
Voilà. On
coupure.
parle de Rosh Chodesh et du Korban Pessah. Chronologiquement, ça se tient, mais pourquoi ici on aurait pu laisser la paracha terminer et revenir en disant bah,
Alors,
c'est ça la question
je l'ai
quand
dit tout à l'heure, je vais peut-être le développer un peu plus longuement. J'ai expliqué que cette sortie d'Égypte qui est en train de se préparer ne doit pas se préparer uniquement sur le plan physique, mais elle doit également se préparer sur le plan spirituel. Nous venons de vivre 9 makot. Voilà, Moshe, Aaron savent pertinemment que ça a été annoncé par Dieu déjà que cette dernière maca, cette dernière plaie sera un petit peu hein, le coup final porté à Pharaon. Et donc il faut qu'il y ait une préparation maintenant. Il faut qu'il y ait une
Mais
préparation
c'est
à
pas
cette
en
sortie
disant il y
d'Égypte
a
qui
Rosh Chodesh
suivra
et
immédiatement. Oui, si. Pourquoi? Alors
ah.
pourquoi cette première mitzvah de Kiddush HaChodesh? Pourquoi est-ce qu'elle était importante? Pourquoi est-ce qu'il fallait la donner maintenant et il ne fallait pas attendre plus tard pour la donner? Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que dans la notion de Kiddush HaChodesh, de la sanctification du mois, il y a ce message que l'on veut faire passer au clan Israël de la capacité qui doit être la leur à se renouveler en permanence. Pharaon a montré exactement l'inverse. Il a montré durant ses 9 premières plaies son incapacité à se remettre en question, son incapacité à se renouveler sur le plan spirituel. Il reste
Pas de
entêté,
sa
il reste
faute.
totalement engoncé dans son idéologie, dans la vision du monde qui est la sienne. Eh bien, Dieu veut mettre en garde les Bnei Israël en leur disant: attention, si vous voulez réussir le projet dans lequel vous vous engagez, vous devez être capable de vous renouveler spirituellement, de vous régénérer. Il faut chaque mois être capable d'être dans le chidouche, d'être dans la
D'accord.
remise en question. Et ce n'est que de cette manière que vous pourrez réussir dans la vie. Donc prenez le contre-pied de Pharaon, libérez-vous, non seulement physiquement, bien sûr, de tout ce que l'Égypte a pu vous proposer de mal, mais libérez-vous également spirituellement de cette idéologie dans laquelle Pharaon a essayé de vous enfermer. Ne soyez pas des gens obtus, ne soyez pas des gens têtus, ne soyez pas des gens fermés dans la vision du monde qui est la vôtre, mais au
Revue.
contraire, soyez capables de vous renouveler. Si on ne commence pas par cela, voilà, la sortie d'Égypte n'a presque aucun sens.
D'accord. Alors, il y a une question aussi qui est très importante dans le chapitre qu'on étudie, c'est qu'on sent que Dieu le dit, il veut absolument que ce soit lui qui exécute la 10e plaie. Il dit, c'est moi qui irai faire la Makat Bechorot, alors que toutes les autres plaies, c'était Moshe, pas un tas de Moshe. Pourquoi Dieu décide, je dirais, de terminer cette série de plaies lui-même par sa propre main?
Il est important, on l'a dit, il y a une progression hein, dans l'envoi de ces différentes makot. Il y a quelque chose vraiment de crescendo. On voit une montée en puissance au niveau des différentes makot qui sont amenées et aussi par rapport, on l'a dit, à l'évolution à la fois de l'opinion publique mais également de Pharaon. Même si on a l'impression que les choses ne bougent pas parce qu'il continue à s'entêter, mais j'ai envie de dire petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid et les choses finissent quand même par pénétrer. Alors ça prend du temps, mais voilà,
Non,
parfois on
mais
se
sur
rend.
la question que je pose. suppose.
Alors, il y a une volonté ici d'Akadosh Baruch Hu de montrer vraiment la volonté qu'il a sienne de créer un rapport voilà, direct avec le clan Israël. C'est un mariage, ça se construit progressivement. Il y a une proximité, une intimité qui se fait de plus en plus grande. Et là, voilà, c'est le début d'un mariage. Bien sûr, le couronnement de ce mariage, ça sera le don de la Torah qui va intervenir 50 ça jours après la sortie d'Égypte. Mais il y a déjà là une volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu de montrer voilà, son intervention directe et qui symbolise aussi la proximité directe qui est la sienne. C'est un Dieu qui intervient, qui crée une intimité avec son peuple sans la nécessité d'intermédiaire.
En tuant les premiers-nés.
Non, pas en tuant les premiers-nés. Bah, c'est ça, parce que c'est celle qui va libérer, c'est celle qui va permettre à Pharaon enfin d'accepter de libérer le clan Israël. Mais bien sûr que cette proximité, cette intimité, c'est par la suite qu'elle va se construire. Mais Kadosh Baruch Hu tient déjà à ce moment-là, au moment de la dernière plaie, de celle qui va porter l'estocade finale, à montrer qu'il est un Dieu qui est, voilà, qui est présent, qui est au cœur de l'action et voilà, qui ne reste pas. Éloigné un petit peu en retrait finalement de à la fois l'histoire de son peuple mais l'histoire du monde.
On va clore sur ma dernière question pratiquement. Dans le texte il est écrit le peuple quitte l'Égypte après 430 ans. C'est écrit dans la Torah. J'ai toujours appris que c'était beaucoup moins. On parle de 219, de 410. Là on dit 430. D'où on sort ce chiffre-là.
Alors effectivement, Jean, vous avez raison de faire remarquer qu'il y a à priori un décalage entre ce que l'on apprend traditionnellement, que l'esclavage qui aurait dû durer 400 ans, puisqu'il a été annoncé comme un esclavage de 400 ans, mais qui n'a duré en réalité que 210 ans, et on apporte plusieurs explications à cela, et notamment que la difficulté de l'esclavage, qui a été beaucoup plus rude que prévu, a un peu réduit du coup l'échéance pour le clan Israël. On nous dit qu'ils ont fait en 210 ans ce qu'ils auraient dû subir en 400 ans. Alors comment arriver à ce compte de 430 ans ? Eh bien tout simplement en commençant à compter à partir de la naissance d'Itsrak, et là on obtient 400 ans. Alors il nous manque malheureusement 30 ans, parce que c'est aussi compter à partir de la naissance d'Itsrak, c'est nous donner une réponse par rapport à ces 400 ans d'esclavage qui ont été annoncés. Alors j'ai donné une réponse et dit ok, on l'a réduit par la difficulté de l'esclavage, mais quand même une difficulté avec 400 ans qui avait été annoncée. Donc on les retrouve l'un dans l'autre, on les retrouve en commençant à compter à partir de la naissance d'Itsrak. Maintenant comment rajouter les 30 années supplémentaires? Eh bien ce sont les 30 ans qui ont séparé l'annonce de la Xéra au moment de l'alliance des morceaux, l'annonce de ce décret par Dieu au moment de l'alliance des morceaux, jusqu'à la naissance d'Israël, on a 30 ans supplémentaires. Mais comme il y a l'annonce déjà de cette terrible épreuve que va endurer le peuple d'Israël des années plus tard, eh bien, voilà, on peut rajouter encore ces 30 ans dans ce compte qui est annoncé ici.
Alors, il y a une question.
Concrètement, donc au moment de vous voyez, l'annonce est déjà en quelque sorte le début, le début d'une épreuve et le début d'une souffrance.
Alors, dans la paracha, vous avez dit dans le résumé, vous parlez du rachat de tous les premiers-nés, y compris.
Oui, le rachat racheté, pas le rachat, le mécréant.
Oui, le rachat en français. Dieu demande à ce que tous les premiers-nés, y compris les garçons, donc, soient réservés. D'où elle vient cette demande? C'est quand même bizarre. Dieu a un problème avec les premiers-nés?
Il n'a pas un problème, au contraire, Dieu a une exigence. Il a une exigence vis-à-vis des premiers-nés qui ont une responsabilité particulière. C'est, j'ai envie de dire, presque du bon sens. On le sait, le premier-né dans une famille, c'est celui qui va rendre les parents parents. On passe d'un couple, finalement, de deux individus à des parents. Donc, il y a un changement. C'est une nouvelle génération qui se crée. Et nécessairement, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont peser sur ce premier-né qui, s'il y a d'autres frères et sœurs, eh bien, aura la responsabilité de tracer la route, d'être un exemple, de montrer un petit peu le chemin. Et cette notion de la Bechora, de l'aînesse, c'est quelque chose de très prégnant dans la Torah, puisque on connaît tous les enjeux du rachat, du droit d'aînesse, de Yaakov à Esav. Et donc, on voit à quel point, finalement, la notion du premier, de la responsabilité qui est la sienne, est quelque chose de tout à fait fondamental dans la Torah. On voit finalement toute l'histoire du Klal Israël, elle s'est en partie construite autour de l'importance que l'on accorde à cet aîné, à ce Béchor. Et la dernière plaie d'Égypte, celle qui va faire céder Pharaon, est aussi une histoire de premier-né. Donc il était tout à fait logique que les premiers-nés aient une kedusha particulière, aient un statut tout à fait particulier, et c'est ce statut qui est mis en avant ici à la fin de la paracha.
Merci M. Gourama,
voilà, Shabbat Shalom. Donc, rappelons qu'en plus les premiers-nés d'Israël ayant été épargnés pas par Dieu, alors qu'ils auraient dû normalement mourir comme tous les premiers-nés, c'est un miracle qui les a épargnés de la mort au moment de cette dixième plaie d'Égypte. Ils ont une dette énorme, une dette morale vis-à-vis de Dieu qui est énorme, et c'est ce qui fait qu'on leur donne ce statut tout à fait particulier.
Parle pour vous là.
Je parle aussi pour moi, parce que moi, je suis premier-né et je suis dernier-né en même temps. Donc
voilà, merci M. le grand rabbin. Shabbat shalom et rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Thomas pour la réalisation technique. Shabbat shalom à vous tous. À la semaine prochaine.